Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Si un jour j'avais pensé passer après Sting, dites-moi bonjour à toutes, bonjour à tous.
Quel honneur et bienvenue sur Europe 1. Bon réveil, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30.
Oh Canada, terre de nos aïeux.
Le Canada qui est peut-être en train de vivre un tournant politique, élections législatives anticipées. Cette nuit, les derniers bureaux de vote ont fermé il y a quelques minutes.
Le Premier ministre sortant, Justin Trudeau, sera-t-il reconduit pour un troisième mandat? On devrait avoir de premières estimations dans les heures qui viennent. Mais les derniers sondages prédisent un scrutin très serré, rien n'est gagné.
Tout comme la lutte contre cette maladie qui touche autour d'un million de Français, démence la plus connue et la plus répandue. Vous l'avez compris, il s'agit d'Alzheimer, dont c'est la journée mondiale en ce mardi 21 septembre. L'occasion de faire le point sur la recherche, les pistes les plus prometteuses, car pour l'heure il n'existe toujours aucun traitement qui permette de guérir ou d'éviter le déclenchement de cette maladie neurodégénérative. En revanche, on sait retarder l'apparition des premiers symptômes. On verra tout cela avec notre invité à 6h10, le professeur de santé publique Philippe Amouyel, directeur de la Fondation Alzheimer. Avant cela, à 5h40, on va parler de nos vacances manquées, des voyages annulés à cause du Covid.
Si votre séjour était prévu entre le 1er mars et le 15 septembre 2020, votre agence de voyage vous a sans doute proposé un avoir pour partir plus tard ou ailleurs, valable 18 mois à partir de la date à laquelle il a été émis. Les premiers avoirs non utilisés arrivent donc à échéance ce mois-ci. Les premiers remboursements commencent. On va en parler avec Emmanuel Liop, qui est avocate spécialisée en droit du tourisme chez Equinox Avocat.
Le mardi, c'est littérature. Dans la prescription culture, à 6h15, Nicolas Carreau va nous parler du dernier roman de Philippe Djian. Et comme chaque jour, on terminera avec votre partition, Omblin.
Une partition classique rock, Julien, un groupe américain des années 70, étonnamment méconnu de ce côté d'Atlantique. Il s'agit de Steely Dan. Steely Dan nous commande deux musiciens virtuoses qui, grâce à leur méthode d'enregistrement en studio, vont être érigés au rang de modèles par les Daft Punk notamment.
Voilà une partie du programme. Installez-vous, faites-vous couler un café. On commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
C'est un peu mieux aujourd'hui.
Oui, c'est un peu mieux qu'hier, effectivement. Sur la moitié nord du pays, on a le soleil qui revient cet après-midi et ça va faire du bien. Alors ce matin, il va falloir être très prudent quand même parce qu'on a beaucoup de brouillard au nord de la Loire, hein, beaucoup de nuages bas. Quasiment toutes les régions sont concernées entre la Bretagne et l'Alsace. Dans l'après-midi, le ciel va se dégager. Donc sur les Hauts-de-France, la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, la région parisienne, l'Alsace, la Franche-Comté, dans toutes ces régions, vous allez avoir droit à une après-midi très ensoleillée. Plus au sud, il reste encore sur le Massif central, l'Occitanie, les Pyrénées, les Alpes, quelques petites averses résiduelles. Et puis au bord de la Méditerranée, c'est pas si beau que ça, parce qu'on a quelques passages nuageux et puis on a toujours ce vent qui souffle fort, Mistral et Tramontane. Ce matin à 4h, il faisait 10 degrés à Épinal, 12 à Brive et Boulogne-sur-Mer, 14 degrés à Lyon, 13 à Paris, 19 à Calvi. Alors cet après-midi, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, c'est assez homogène. On aura 18 à 26 degrés, 18 à Saint-Étienne, 20 pour Paris et 26 à Marseille.
Merci Anissa Haddadi. Place à l'info, votre premier journal de ce mardi 21 septembre. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Environ 1 million de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer en France. Journée mondiale aujourd'hui. Pas de traitement pour retrouver la mémoire, mais des thérapies qui permettent de raviver les souvenirs des malades. Exemple dans un EHPAD où l'on fait des balades dans des voitures de collection. C'est le réflexe d'une période révolue. Déclaration de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères à l'ONU cette nuit, qui condamne une nouvelle fois la nouvelle alliance États-Unis, Royaume-Uni, Australie dans l'affaire des sous-marins. Un conseil de défense est prévu ce matin à l'Élysée. C'était il y a 20 ans, à 10h17 très précisément, l'usine AZF à Toulouse explosait. 31 morts, 2500 blessés et des milliers de sinistrés. Aujourd'hui, le site a laissé place à l'Institut universitaire du cancer où nous nous sommes rendus. Et le journal de 5 heures vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous. Mardi 21 septembre, c'est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer, un fléau qui touche environ 1 million de personnes en France qui perdent petit à petit la mémoire. Aucun traitement n'existe, mais certaines thérapies permettent aux malades, souvent âgés, de se remémorer quelques souvenirs souvent agréables. Reportage dans l'unité Alzheimer de l'EHPAD Corian, qui est à de Montigny-le-Bretonneux, en région parisienne, avec Élise Dangean.
Alors c'est une Ford Mustang de 1965. Alors
Benjamin Joigny offre un voyage dans le temps à ses résidents. Collectionneur de vieilles voitures, le directeur de l'établissement se transforme pour l'occasion en chauffeur sur le siège passager. Denise, 88 ans, qui est à un stade avancé de la maladie, mais qui n'est pas dépaysée par le véhicule.
Je suis gâtée.
Au bout de quelques mètres, passé le choc d'un monde qui ne ressemble plus tout à fait à celui de sa jeunesse.
Qu'est-ce qu'il y a comme bagnole ?
La mémoire lui revient un peu.
Je suis déjà passée une fois par là, je ne sais plus pourquoi.
Une victoire pour l'équipe soignante à bord, car il ne s'agit pas d'une simple balade dans cette voiture qui sert de capsule temporelle. On évalue l'état du patient avec quelques questions.
Son métier, c'était quoi, votre papa ? Sa profession ?
Ébéniste.
Les souvenirs qui restent préservés le plus longtemps, c'est les souvenirs qu'on a emmagasinés entre l'âge de 10 ans et l'âge de 35 ans. Donc là, pour cette population ici, ça nous ramène dans les années 60-70.
L'établissement prévoit même d'aller plus loin et de se mettre complètement aux couleurs de l'époque, repas, vaisselle, déco et même musique, le tout pour raviver la mémoire des résidents.
Qui c'est ?
Edith Piaf.
J'étais toute jeune quand elle a
passé. Chaque année, 225 000 personnes sont diagnostiquées.
On en vient à cette ambiance toujours glaciale entre la France et la Nouvelle Alliance États-Unis, Royaume-Uni, Australie, près d'une semaine après la rupture du contrat du siècle.
Oui, un conseil de défense sur l'affaire des sous-marins est même prévu ce matin. Emmanuel Macron et Joe Biden n'ont d'ailleurs toujours pas fixé de date pour régler leurs comptes. Les deux présidents doivent désamorcer la crise survenue après l'annulation par l'Australie du contrat d'achat de 12 sous-marins français. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères à l'ONU, cette nuit est toujours aussi en colère.
Nous pensions que la page de l'unilatéralisme, de l'imprévisibilité, de la brutalité de l'annonce, du non-respect du partenaire, faisait partie du passé. Et là, cet état d'esprit perdure dans une initiative imprévue, cachée, brutale. Donc on veut comprendre. Parce que le principe de base de partenaire, et nous sommes des alliés, c'est qu'on se parle. C'est ça qui nous surprend, qui est choquant. Et c'est pour ça qu'il y a une crise de confiance. C'est comme si l'Europe n'avait pas elle-même d'intérêt à défendre dans la zone concernée. Mais les Européens ont eux aussi leurs intérêts fondamentaux. Et que les Européens ne soient pas les laissés pour compte de la stratégie choisie par les États-Unis, parce qu'eux-mêmes ont défini leur propre stratégie.
Jean-Yves Le Drian en conférence de presse en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. S'il ne prévoit pas de rencontrer son homologue américain Anthony Blinken, il espère le croiser dans les couloirs. Les États-Unis qui accueilleront à nouveau les touristes à partir du 1er novembre. Les voyageurs devront présenter une preuve de vaccination contre le coronavirus, se faire tester 3 jours avant d'arriver sur le territoire et porter un masque, décision saluée par l'Union européenne. Emmanuel Macron a demandé pardon hier, 60 ans après, pardon à tous les harkis au nom de la France, qui a manqué à ses devoirs envers ces Algériens qui se sont battus pour elle. Une loi de réparation sera portée avant la fin de l'année sur le président.
31 morts, 2500 blessés et des milliers de sinistrés.
C'était à 10h17, il y a tout juste 20 ans, l'usine AZF à Toulouse explosait. Et comme chaque année, une commémoration est prévue ce matin sur le site qui accueillait le pôle chimique de Toulouse. Aujourd'hui, il s'est en partie transformé. Reportage de notre correspondant européen Benjamin Peter.
De la route, on aperçoit d'abord une vaste friche envahie par la végétation. Ce n'est qu'après plusieurs centaines de mètres que des cheminements délimitent le mémorial AZF où se déroulent les cérémonies. Pour l'adjoint aux politiques culturelles et mémorielles, Francis Grasse, c'est un espace qui doit reprendre vie.
Aujourd'hui, le site est une zone un peu vierge. Oui, il y a toujours le cratère qui n'a pas été libéré, décelé. C'est des secteurs qui sont probablement urbanisables, c'est-à-dire qu'il y a encore des possibilités de développement. On a créé un site photovoltaïque, vous avez vu derrière. Et cette partie de mémoire, elle est préservée. On voudrait que ça soit un lieu de visite, signalé en ville pour qu'on puisse y aller.
Plus au sud, le pôle chimique a laissé la place aux biotechnologies, avec en tête l'Oncopole, ouvert en 2014. Pour son directeur, le professeur Jean-Pierre Delors, implanter ici ce pôle d'excellence consacré aux soins et à la recherche, ça avait du sens.
Les milliers de patients qu'on a pris en charge depuis maintenant un peu plus de 6 ans qu'est ouvert ce centre, sont probablement eux les meilleurs témoins qu'on peut faire vivre l'espoir sur un site comme celui-là. Une grande catastrophe d'un côté, un grand espoir de l'autre.
À terme, 8000 personnes devraient travailler ici et l'arrivée prochaine du téléphérique qui reliera l'Oncopole au CHU et à la fac de médecine devrait permettre de désenclaver la zone. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
C'était hier la 9e journée d'audience au procès des attentats du 13 novembre 2015.
Et la dernière consacrée aux constatations sur les scènes de crime de la soirée ce lundi. Deux policiers ont témoigné à la barre pour décrire l'horreur des terrasses de la Belle Équipe et du comptoir Voltaire. Un chaos absolu, confie l'un d'eux, Marion Dubreuil.
C'était une petite terrasse, ça respirait l'amitié, raconte le policier. On fêtait 2 anniversaires ce soir-là. Sur l'écran, les corps de 13 victimes sont schématisés en couleurs, enchevêtrés. Sa voix s'éraille un peu. L'enquêteur décrit les blessures par balles. Un jeune homme en position fœtale, une jeune femme encore assise. Le policier a dénombré 164 étuis de balles pour 21 victimes au total. Une vidéo tournée par un riverain montre 2 terroristes armés et on entend les rafales de tirs. Une jeune femme fond en larmes dans la salle. C'est une vidéo sortie de son contexte, intervient Salah Abdeslam qui se lève dans son box. Le président le coupe dans sa diatribe, il ne veut pas de provocation. L'accusé ajoute « Ces terroristes, ce sont mes frères ». Ça, on l'avait bien compris, répond le magistrat. Quelques minutes plus tard, la cour diffuse les images de vidéosurveillance du comptoir Voltaire. On voit Brahim Abdeslam entrer dans le restaurant d'un pas déterminé pour se faire exploser.
Et au comptoir Voltaire, 120 écrous issus de la ceinture explosive de Brahim Abdeslam ont été découverts dans la vitrine, a fait savoir un enquêteur de la police judiciaire de Lille hier. La plateforme de livraison de repas Deliveroo et 3 de ses ex-dirigeants convoqués devant le tribunal correctionnel de Paris en mars 2022. Ils seront jugés pour travail dissimulé, accusés d'avoir employé comme indépendants des livreurs qui auraient dû être salariés.
La commission de discipline de la Ligue de football professionnel tape du poing sur la table.
Après le fiasco de Nice-Marseille, hors de question de laisser passer les événements du derby du Nord samedi entre Lens et Lille. J'ai 2 projectiles, envahissement de terrain, 6 blessés. Lens a même porté plainte pour dégradation et usage de fumigène. Cyril de la Morinerie, la commission frappe fort et Lens s'écope d'un huis clos à titre conservatoire.
Oui, les 2 prochaines rencontres au stade Bollard à Lens se dérouleront à huis clos. Quant aux Lillois, ils n'auront pas le droit d'encourager leur équipe à l'extérieur jusqu'au 6 octobre, date à laquelle la commission de discipline dévoilera les sanctions définitives. En attendant, l'Association nationale des supporters juge ces mesures disproportionnées et inadaptées. Pour l'avocat de l'ANS Pierre Barthélémy, des sanctions individuelles comme des interdictions de stade sont beaucoup plus efficaces pour empêcher les débordements dans les stades.
C'est très facile de prendre des sanctions collectives, de fermer les tribunes, de retirer des points au club. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'efforts qui sont menés quand il faut identifier individuellement les personnes, les sanctionner individuellement, alors que c'est ça la clé. Hein. Ceux qui sont prêts à jeter des sièges sur la tête d'enfants ou de familles, ou ceux qui sont prêts à descendre sur un terrain pour frapper un joueur, c'est pas parce que le club risque un huis clos ou un point de retrait qu'ils vont changer leur comportement. Hein.
L'Association nationale des supporters suggère de mieux sécuriser les enceintes avec la pose de filets de protection afin d'empêcher les jets de projectiles. Bref, après la multiplication des dérapages en tribune ces dernières semaines, ceux qui espéraient un usage encadré des fumigènes et moins d'interdictions de stade devront prendre leur mal en patience.
6 peintures, 2 statues et 1 carnet à dessin. C'est l'incroyable donation reçue par le musée Picasso à Paris hier. Des œuvres inédites cédées par la fille de l'artiste Maya. Un moyen pour son aîné de s'acquitter d'impôts en nature et d'en faire profiter les Français.
Et puis on vous en parlait dans le sommaire, les élections législatives au Canada, on l'apprend à l'instant, c'est Justin Trudeau, le Premier ministre sortant, qui l'emporterait selon les premières projections données par les médias canadiens. Il effectuerait donc un 3e mandat. C'était le journal d'Alban Le Prince, merci Alban.
5h10 sur Europe 1, l'heure des courses, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil et mon pari gagnant sera le 502 version Subutex. Il possède des références solides aussi bien en haie qu'en steeple et dans cette épreuve où tous les chevaux seront à vendre au plus offrant après l'arrivée, force est de reconnaître qu'il affronte ici un lot largement à sa portée. Bon sauteur, ayant déjà réussi sur le parcours qu'il empruntera cet après-midi, il peut être considéré comme une certitude dans les 3 premiers. Notez bien pour Auteuil, réunion 1, dans la 5e course, le numéro 2 version Subutex.
Version Subutex, joli nom. Merci Thierry Léger, vous revenez dans une petite demi-heure pour vos pronostics du Quintet. Bon réveil à vous sur Europe 1. Vous restez avec nous dans une minute, c'est le pressing, les articles dans la presse que l'on a sélectionnés rien que pour vous.
Oui, et au menu ce matin, vous allez être gâtés. Hein. Des chiens à la mairie, des jeunes chinois rationnés de réseaux sociaux et puis des bijoux fabriqués avec ce que contiennent nos téléphones. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Et à 5h12, c'est le pressing, les articles à ne pas manquer ce matin dans la presse selon nous. Et on n'est pas trop de trois pour éplucher vos quotidiens. Bonjour Martin Lange.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Bonjour Martin. On commence avec notre traditionnel coup d'œil sur les unes de vos journaux. En campagne, Macron multiplie les promesses, titre Le Figaro qui s'inquiète de la multiplication des dépenses annoncées par le chef de l'État à 7 mois de la présidentielle. Que ceux qui n'ont pas reçu leur chèque lèvent le doigt, raille l'édito du quotidien intitulé Noël en été. Un témoignage à la une d'aujourd'hui en France, celui d'Elie Semoun qui a accompagné son père atteint de la maladie d'Alzheimer. Entourez votre proche d'amour et protégez-vous, conseille l'humoriste. Et puis les bourses mondiales flanchent face aux risques chinois, c'est le titre à la une des Échos. Le CAC 40 a clôturé hier en baisse d'1,7% en raison des craintes autour de la possible défaillance d'Evergrande, géant chinois de l'immobilier. Voilà pour les unes, Omblin, à vous.
Et voilà une expérience menée par la mairie de Grenoble qui devrait vous plaire, Julien. C'est aujourd'hui en France qui en parle et qui va peut-être donner des idées aux ressources humaines d'Europe 1. Voilà, je passe le message pour vous. Depuis le 25 juin dernier, les élus et les agents municipaux de la mairie de Grenoble sont autorisés à venir travailler avec leurs chiens. Ah. Une idée de la conseillère municipale en charge de la condition animale, Sandra Krief, membre du parti animaliste et soutenue par le maire, Éric Piolle. Au départ, sa motivation, c'est le bien-être animal, ne pas laisser des chiens enfermés toute la journée dans un appartement. Et finalement, dit-elle, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien si les collègues, bien sûr, n'ont pas peur du chien de la voisine. Et avant de voir des petites et des grosses boules de poils se balader dans les bureaux, il a fallu évidemment obtenir le consentement de tous. Ce n'est pas tout. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été consulté. Des RH aussi. Et des règles ont été édictées. Et puis le chien doit également montrer patte blanche avec un carnet vaccinal à jour. Une fois que tout ça c'est passé. Bah oui. Une fois que toutes les cases ont été cochées, eh bien les voilà, ces chiens qui entrent dans la mairie de Grenoble. 5 personnes viennent accompagner. Maître et chien sont sur le même étage, un étage qui par ailleurs n'accueille pas le public. Les bureaux ont été équipés d'un coussin, savamment installé à côté de la gamelle de croquettes. Et tout semble se passer à merveille entre les collègues. Surtout, une élue raconte qu'on vient lui dire plus souvent bonjour avec le sourire. Ça devait être sympa l'ambiance avant. Bon, en tout cas, les chiens, ça crée des liens, ça c'est pas nouveau. On sait pas comment ça se passe entre les chiens. Moi j'aimerais bien savoir entre un caniche et un dog.
C'est sûr qu'il faut qu'ils soient bien socialisés entre eux.
Oui, il faut que ça fonctionne. Pas que ça aboie tout le temps aussi, ça fait pas sérieux au téléphone. Mais...
voilà. Ah bah voilà.
Voilà, couché.
Fabrice Lafitte.
L'expérience.
Couché, Fabrice Lafitte.
L'expérience devrait être prolongée au moins 9 mois et elle pourrait même être étendue à plus de bâtiments municipaux dans la ville. Des chiens admis dans les bureaux de la mairie de Grenoble. C'est dans Aujourd'hui en France.
Alors, je crois que j'ai vu l'illustration de l'article. Ce sont relativement de petits chiens.
Ah là, c'est un cocker.
Ouais,
qui s'appelle Madrid.
Ça va, ça pèse.
Il est tout mignon, il a 3 ans.
10-15 kilos.
C'est vrai que le Doberman, c'est peut-être un peu plus gênant au bureau.
Ouais, mon berger allemand ou mon labrador. Alors, le labrador, ça passe encore, mais bon, les deux, imaginez les deux en même temps. Là, dans le studio.
Vous croyez qu'on peut venir avec plusieurs chiens?
Bah, il va falloir qu'on négocie.
Ou alors, il faut faire un choix, mais c'est terrible.
Mais oui. Et alors, du coup, par contre, je voudrais juste ajouter, ce sont les chiens qui ont été préférés aux chats et aux animaux en cage, parce qu'il a fallu faire des choix.
C'est plus compliqué de bouger des chats. Eux-mêmes n'aiment pas trop le changement.
Non.
Merci Omblin.
Avec plaisir.
Martin, à vous.
Avec un nouvel épisode de la reprise en main idéologique en Chine, on vous a déjà parlé, je crois que c'était vous d'ailleurs, Julien, de la limitation des jeux vidéo, pas plus de 3 heures par semaine pour les moins de 18 ans et seulement le week-end. Un peu plus tôt cet été, Pékin était aussi parti en guerre contre la télé-réalité, sommée de promouvoir la tradition, excite donc les influenceurs jugés trop efféminés ou vulgaires. Et depuis hier, c'est Douyin, je sais pas si vous connaissez, c'est le TikTok chinois qui doit faire face à de nouvelles restrictions.
Sachant que TikTok c'est déjà chinois à la base.
Ouais. Alors c'est le nom de TikTok en Chine.
D'accord. Voilà.
Les moins de 14 ans ne peuvent plus y accéder plus de 40 minutes par jour, hein, et leur connexion est même bloquée entre 22h et 6h du matin. Alors avant même les annonces de Pékin, ByteDance, la maison mère de Douyin, avait déjà mis à jour ses conditions d'utilisation. Elle justifie le blocage de la collection la nuit, hein, par une volonté de préserver le sommeil des petits chinois, et annonce aussi de nouveaux contenus, hein, plus éducatifs, vulgarisation scientifique, visite de musées. Dit comme ça, la nouvelle stratégie de Douyin...
Ou le programme du Parti communiste.
Peut-être, paraît intelligente, hein. Limiter l'exposition aux écrans et au contenu et d'adapter des enfants, tous les parents du monde en ont rêvé, n'est-ce pas, Ombline ?
Bien sûr, mais j'ai pas besoin du gouvernement pour faire, mais bon, ça, je dis ça.
Sauf qu'il s'agit surtout
d'éviter... Ombline, c'est Xi Jinping à la maison. Il ouais, n'y a pas une mouche qui vole.
Non, hein. Pas intérêt.
Sauf qu'il s'agit surtout d'éviter que les jeunes chinois regardent des vidéos jugées contraires aux valeurs de la Chine. C'est aussi le dernier épisode du bras de fer que se livrent Pékin et les géants du numérique. Aux États-Unis, hein, on connaît les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc. Eh bien, en Chine, on les appelle les batch pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. C'est les géants chinois du numérique auxquels on peut ajouter donc ByteDance, la maison mère de Douyin. Le parti communiste qui veut absolument continuer à contrôler sa population les observe avec ambivalence entre envie et crainte. C'est pour ça qu'il essaie de les mettre sous tutelle. Et de leur côté, les batch font le dos rond, hein, pour éviter des mesures trop violentes. Mmh. On se souvient des mésaventures de Jack Ma, l'ancien patron d'Alibaba, très critique vis-à-vis de Pékin et qui a été porté disparu de longs mois. En Chine, 40 minutes par jour de Douyin pour les moins de 14 ans, c'est à retrouver sur le site de West France.
Merci beaucoup Martin. Alors j'ai choisi pour ma part un article du Figaro qui s'inscrit parfaitement dans la semaine du développement durable. Martin, petite question, est-ce que vous aimez les bijoux ?
Pas vraiment, enfin j'en porte pas en tout cas.
Quant à vous Ombline, je ne vous pose même pas la question, vous avez tellement de métal sur vous que vous feriez sonner un portique de sécurité sans même passer dessous.
Oh, vous êtes jaloux de ma chaîne.
Ouais, absolument. Sachez, ma chère Ombline, que...
ouais,
sachez ma chère Ombline que votre passion pour le précieux, le clinquant est tout simplement une aberration écologique. Ah. Par exemple, ce joli bracelet en or que vous portez a nécessité 50 000 litres d'eau pour son extraction, soit de quoi remplir 8 canadaires ou une piscine d'environ 10 mètres de long, sans compter le cyanure et tous les autres produits hautement toxiques utilisés dans les mines. Quant au meilleur ami de la femme, selon Marilyn Monroe, square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape, diamonds are a girl's best friend. Les diamants donc, là aussi on marche sur la tête, vu que pour trouver un diamant de 1 carat, soit 0,2 grammes, c'est tout petit, il faut extraire 250 tonnes de terre et de roche, soit le poids de 3 avions. Mais rassurez-vous Ombline, il existe une solution, un joaillier écolo et ultra chic, très haut de gamme comme vous, vu qu'il est situé place Vendôme à Paris. C'est la maison Courbet qui réalise ses bijoux uniquement avec de l'or issu d'ordinateurs et de téléphones portables, parce qu'on a tendance à l'ignorer, mais nos appareils électroniques sont bardés de métaux rares.
Bon, alors très bien, mais moi aussi, moi je veux des diamants.
Eh bien, vous aurez des diamants de laboratoire qui, comme leur nom l'indique, sont créés de toutes pièces. On arrive désormais à fabriquer des diamants de synthèse et il est impossible de les distinguer à l'œil nu des diamants des mines qui, eux, mettent 2 millions d'années à se former dans les entrailles de la Terre.
Et ces bijoux éthiques, forcément, ça doit coûter plus cher.
Non, c'est même l'inverse. Ah. Alors certes, le recyclage de l'or est plus coûteux que l'extraction, mais les diamants de laboratoire, eux, sont beaucoup moins chers que les pierres naturelles. Résultat, ce joaillier pratique des prix 30 à 40% inférieurs à la concurrence. Ce qui ne veut pas dire, ma chère Ombline, je vois votre regard que vous aurez un diamant à la fin de la saison.
Oh bah alors tout de suite, vous revenez sur vos promesses.
Bon, la rivière, de Dieu. Ça c'est votre copine Rihanna, c'est pas moi.
Merci beaucoup Julien. On va terminer sur cette note, rideau sur le pressing. Martin, vous revenez dans une quarantaine de minutes.
À tout à l'heure.
Avec plaisir pour le journal des sports, à tout à l'heure.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
5h20 sur Europe 1, les principaux titres de l'actualité de ce mardi. C'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Conseil de défense ce matin à l'Elysée sur l'affaire des sous-marins en déplacement à New York. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a dénoncé hier des réflexes d'une autre époque. Après 18 mois de travel ban, les États-Unis rouvrent leurs aéroports aux touristes le 1er novembre. Les voyageurs devront être vaccinés, testés 3 jours avant d'arriver sur le territoire et porter le masque. L'Union européenne salue cette décision. 21 septembre 2021, c'est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer qui touche près d'1 million de personnes en France. 225 000 diagnostics sont prononcés chaque année, mais aucun traitement n'a encore été trouvé. Emmanuel Macron a demandé pardon aux harkis hier, pardon au nom de la France, à ces Algériens qui se sont battus pour elle. Une loi de réparation sera portée avant la fin de l'année.
Europe 1.
Bonjour, bienvenue à vous qui arrivez. Il est 5h20 sur Europe 1 et c'est l'heure des initiatives en France. Si vous pensez avoir des objets de grande valeur qui dorment dans votre grenier, eh bien écoutez ce qui va suivre. On prend, Julien, la direction du Nord.
Bonjour François-Xavier Poncet.
Bonjour monsieur.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes commissaire priseur chez Rossini, une maison de vente aux enchères parisiennes. Et pendant les 3 prochains jours, vous proposez aux habitants de la région lilloise de venir faire expertiser gratuitement un objet. Vous serez d'ailleurs tout à l'heure au golfe de Mérigny. C'est pas commun, un commissaire priseur itinérant qui vient à la rencontre du public ?
Oui, effectivement, c'est peu commun. On est la jeune génération, donc on a pour but de rendre accessible le plus possible notre profession, qui est parfois vue comme un peu élitiste, un peu monde un peu à part, où on entend parler que de records à plusieurs millions dans la presse. Nous, on essaie justement de casser un peu cette image et de rendre service aux gens, oui.
D'où est venue cette idée ? Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que vous faites cela, je crois.
Non, effectivement, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, à récurrence d'un an par ville où on va. On a mis en place ce genre de journée itinérante, oui.
Est-ce que c'est un moyen pour vous de découvrir des objets qui, sans ça, seraient peut-être restés à prendre la poussière au fond d'un grenier ?
Alors, c'est tout à fait le but de ces journées, c'est justement de partir un peu à la chasse au trésor, de solliciter les habitants de la région lilloise, en ce qui nous concerne, pour leur dire, prenez un peu de temps, allez voir dans votre grenier, au fond de votre cave, ou regardez dans un tiroir, ou dans la petite bourse de bijoux qu'on vous a transmis, voir si, un tableau prend la poussière, un bronze ne voit pas trop le jour à la cave, ou si, comme je disais, des petits bijoux, qui c'est d'ailleurs très souvent le cas, ont été transmis de génération en génération, on ne les porte plus, ils dorment dans un tiroir. Donc oui, effectivement, au cours de ces journées-là, on trouve, on nous confie, ou on a à estimer en tout cas, un grand nombre d'objets qui sont un peu oubliés comme ça, qui dorment, mais parfois on trouve véritablement de très belles pépites. Oui.
C'est-à-dire, vous avez un exemple ?
Oui, dans la région lilloise, il y a un an et demi, on nous a confié 3 petites pièces en or qui paraissaient anodines. On en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup des pièces. Et là, il y avait quand même une petite particularité, c'est que c'était pas 3 petites pièces qui n'étaient pas si anodines que ça. En réalité, elles se sont avérées d'une grande rareté. Et on a fini par les vendre 130 000 euros.
Oui, tout de même.
Tout de même, ouais. Au lieu des 600 euros de la valeur du poids du métal précieux, si vous voulez. Donc c'est véritablement là qu'un commissaire priseur apporte sa connaissance et son expérience. C'est justement dans la détection du détail de ce genre d'objet. C'est la même chose pour tout ce qui est tableaux, sculptures. On apporte véritablement une connaissance.
Pardonnez-moi, oui. Est-ce qu'à l'inverse, il y a de grosses déceptions, des personnes qui se présentent
oui.
Persuadées d'avoir en main le Graal et qui vous devez annoncer, désolé, mais c'est du toc, ça ne vaut rien.
Oui, exactement, oui. Malheureusement, on n'annonce pas que des bonnes nouvelles. Voilà, comme on est tenu de dire la vérité, comme on est objectif, on doit faire notre expertise véritablement de manière purement juste et objective. On est bien évidemment amené à annoncer de mauvaises nouvelles et des déconvenues, oui, bien sûr, oui. Vous avez parfois des mythes familiaux, des histoires transmises de génération en génération, et bien qui s'effondrent à cause de nous, oui. Ouais.
Qu'on soit bien d'accord, le fait de vous amener des objets à expertiser, ça n'engage en rien à les vendre aux enchères dans la foulée.
Exactement. Nous, ce qu'on propose, c'est un service d'estimation gratuite dans un premier temps. Donc, les personnes viennent nous voir, par exemple au golf, comme tout à l'heure, avec leurs objets. On s'assied autour d'une table, on regarde l'objet. On en fait une expertise, on en donne l'estimation, le service est purement gratuit, libre à la personne de repartir avec son objet si elle souhaite le garder, le transmettre en famille, simplement actualiser l'estimation de son bien ou autre. Elle est tout à fait libre de repartir avec, sans engagement. Oui.
Ou alors elle peut vous confier cet objet et vous organiser la vente aux enchères.
Exactement, et à ce moment-là, le service est clé en main, on s'occupe de tout. Donc déjà, dans un premier temps, on couche sur le papier notre expertise, notre estimation, c'est-à-dire qu'on rédige un contrat de mandat, c'est l'autorisation pour nous de vendre l'objet aux enchères, donc on ne l'achète pas. Hein. Nous, à aucun moment, on est propriétaire des objets, on nous les confie, on en fait l'estimation, et à partir de là, avec un prix de réserve, bien sûr, donc un prix en dessous duquel on ne vend pas, et à partir de là, on place l'objet dans une vente aux enchères. Donc le service clé en main, donc on rédige un contrat de mandat de vente, qui récapitule tout, les frais, l'estimation, le prix de réserve, la description, la date de vente. On en laisse un double à la personne qu'on a en face de nous et on transporte gratuitement l'objet vers Paris, vers notre salle de vente.
Merci beaucoup François-Xavier Poncet. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur chez Rossigny et que vous serez tout à l'heure avec vos collègues au golfe de Mérigny dans le Nord pour des expertises gratuites. D'ailleurs, si vous voulez prendre rendez-vous, envoyez un message à rossigny.estimation au pluriel avec un s@gmail.com. Je vous souhaite bonne journée et à bientôt.
Merci beaucoup.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, bon réveil avec Europe 1 et tendez l'oreille, cela vous concerne peut-être si vous faites partie de ces vacanciers qui avaient prévu de voyager lorsque la crise du Covid s'est invitée dans nos vies il y a 18 mois.
Obligé de rester chez vous, le séjour à l'étranger par exemple avec vol plus hébergement que vous aviez planifié, annulé. Au lieu d'être remboursé immédiatement, votre voyagiste vous a donné un avoir valable 18 mois. Au-delà, si vous ne l'avez pas utilisé, la somme de cet avoir doit vous être restituée. Y a-t-il des démarches à effectuer? Quels sont les recours en cas de mauvaise surprise? On sera avec une avocate spéciale en droit du tourisme.
Et puis juste après le choix de notre monsieur livre dans la prescription culture, Nicolas Carreau a beaucoup aimé le dernier roman de Philippe Djian. Mais avant la météo, Anissa Haddadi, ciel couvert pour ce début de journée.
Oui, c'est vrai que ce matin, le ciel est quand même bien couvert. On a sur les côtes de la Manche, jusqu'en Vendée, dans le Grand Est, en Franche-Comté. Et puis jusque sur le Massif Central, quand même, on a pas mal de nuages bas ce matin, de brumes et de brouillards. Donc soyez prudents si vous prenez la route tôt ce matin. Sur la moitié sud du pays, on a encore quelques averses sur le Massif Central, des averses résiduelles sur les Pyrénées également et sur les Alpes. Au bord de la Méditerranée, on a toujours le Mistral et la Tramontane qui soufflent dès ce matin et qui vont se renforcer dans l'après-midi. Le ciel va se couvrir au bord de la Méditerranée dans l'après-midi. Alors de manière générale, il faut bien se dire qu'on aura deux France aujourd'hui. On aura beaucoup de soleil sur la moitié nord, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Cotentin, région parisienne, Grand Est, là il va faire très beau. Et puis alors sur la moitié sud, c'est beaucoup plus couvert. 10 degrés à Saint-Dizier et Pau ce matin, 13 à Lorient et Paris, 16 à Nice, cet après-midi on aura 18 à 26 degrés.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Votre journal, il est 5h30.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Le ralentissement de la campagne vaccinale et la fermeture programmée des premiers vaccinodromes comme à Marcq-en-Barœul dans le Nord. 5 millions de Français de plus de 12 ans ne sont toujours pas vaccinés en France. La journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, elle concerne environ 1 million de Français. Toujours pas de traitement miracle, mais la recherche progresse. La montée en puissance de la Chine dans le Pacifique est-elle une menace pour les intérêts français? Pékin lorgne sur la Nouvelle-Calédonie et tente d'étendre son influence sur l'archipel. Et puis une première en France, l'ouverture d'un premier centre de télémédecine à Saint-Quentin. Les consultations d'ophtalmologie se font désormais à distance derrière son ordinateur. Le journal de 5h30, c'est Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. C'était redouté par le gouvernement, mais c'est une réalité. La campagne de vaccination plafonne. Le cap des 50 millions de primo-vaccinés a été franchi vendredi dernier, soit avec deux semaines de retard sur le temps de passage prévu. Aujourd'hui, 86% des Français de plus de 12 ans ont reçu au moins une injection. Et symbole de cette vaccination de masse, les vaccinodromes ferment progressivement leurs portes. C'est le cas à Marcq-en-Barœul dans le Nord. Reportage Lionel Gougelot.
Dernières injections dans le grand hall de l'hippodrome de Marcq-en-Barœul avant sa fermeture en fin de semaine. Des candidats au vaccin de plus en plus rares et parfois résignés.
Bah nous, on est venus un peu à la dernière minute, ouais. Quand on se sentait vraiment contraint parce qu'on avait le droit de plus rien faire.
Contrainte et forcée,
ça? Oui, bah ça, avec le chantage, on l'a fait. Mais à la base, on était vraiment déterminés à ne pas le faire du tout.
La plupart des boxes sont fermées. 280 piqûres dimanche dernier, quand on en comptait plus de 2000 par week-end. Le dispositif n'est plus adapté. Jean-François Clairvoûte, médecin coordonnateur.
Il y avait 8 postes de médecins et 8 postes d'infirmières piqueurs ou piqueuses. Là, aujourd'hui, on travaille avec 2 postes de médecins et 2 postes de piqueuses. Et on va donc se retrouver dans une structure beaucoup plus petite, en acceptant aussi sans problème les gens.
Mais si la généralisation de la 3e dose l'exige, le docteur Charani, en charge de 2 centres dans la métropole lilloise, est prêt à relancer une vaccination à grande échelle.
Dès que le besoin se présente, nous sommes prêts à réactiver toutes les lignes qu'on a arrêtées, pour atteindre 500 à 800 vaccinations par jour sans aucun problème. Les soignants sont là, les mairies sont avec nous, et on va voir les salles jusqu'à fin d'année pour voir un peu plus clair.
Mais pour l'heure, les centres de proximité suffisent largement pour la vaccination des derniers retardataires.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Qu'en est-il de la vaccination des enfants à partir de 5 ans? Pfizer et BioNTech affirment que leur sérum est sûr et bien toléré par les enfants de 5 à 11 ans, d'après les résultats d'une étude publiée par les deux laboratoires, ce qui ouvre sans doute la vaccination pour les 5-11 ans.
Ce mardi, c'est aussi la journée mondiale d'Alzheimer, une maladie très invalidante qui concerne de plus en plus de Français.
En environ 1 million de personnes sont touchées et leur nombre augmente avec le vieillissement de la population. 225 000 cas sont diagnostiqués chaque année. Il n'existe toujours pas de médicament miracle pour empêcher la dégénérescence du cerveau. La prévention et la prise en charge précoce permettent de reculer l'arrivée de la maladie. La recherche d'un traitement avance malgré tout. Élise Dangean.
Les seuls médicaments qui existent pour la maladie d'Alzheimer permettent d'en atténuer les symptômes, mais pas plus. Ils existent depuis une vingtaine d'années et ne sont même plus remboursés par l'assurance maladie. L'espoir de contrer cette pathologie, ou plutôt de la ralentir, a été relancé cet été avec l'autorisation par l'Agence américaine du médicament de l'aducanumab, un traitement qui fonctionne comme un vaccin. Problème, il coûte très cher, en moyenne 60 000 $ par an, et a des effets indésirables non négligeables. Par ailleurs, il ne fait pas consensus. Deux études se contredisent à son sujet. Le dossier est tout de même entre les mains de l'Agence européenne du médicament qui pourrait rendre un avis d'ici la fin de l'année. En attendant, d'autres immunothérapies sont prometteuses, disent les spécialistes. Au total, 102 molécules sont en cours d'essais cliniques dans le monde.
Et il y a un enjeu autour de la prévention. Bien sûr, près de la moitié des cas d'Alzheimer pourraient être évités à condition de maîtriser au moins 12 facteurs de risque comme la sédentarité, le diabète, le tabagisme ou encore la pollution de l'air.
La crise des sous-marins s'invite au sommet de l'ONU à New York.
Après être restée silencieuse, l'Europe fait entendre sa voix. La présidente de la Commission estime que la France a été traitée de manière inacceptable par les Américains. Déclaration d'Ursula von der Leyen en marge du sommet. Cette dispute affecte toute l'Europe, pas seulement la France, résume le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Côté français, on ne décolère toujours pas. Jean-Yves Le Drian a dénoncé une nouvelle fois l'attitude de Washington.
Et pour l'instant, aucune réaction officielle de la Maison-Blanche.
L'entourage de Joe Biden fait savoir qu'il ne modifiera pas son agenda du jour. Le président américain doit s'entretenir avec les premiers ministres australiens et britanniques, ses deux nouveaux partenaires dans la zone Indo-Pacifique. Seule concession faite aux Européens et donc aux Français, la fin du travel ban, c'est-à-dire la réouverture des frontières aux voyageurs vaccinés début novembre.
Une crise qui a pour origine l'appétit réel ou supposé de la Chine dans la région Indo-Pacifique.
Et c'est ce qui a poussé la formation de l'AUKUS, l'alliance militaire, ce pacte de sécurité entre Américains, Britanniques et Australiens pour contrer la montée en puissance de la Chine. Pékin qui lorgne également les intérêts français en Nouvelle-Calédonie. Les Chinois très attentifs aux résultats du prochain référendum sur l'indépendance, comme en témoigne Philippe Gomez, député de l'île.
Concrètement, à la veille du premier référendum, c'est-à-dire en 2018, on a une délégation chinoise très importante qui est venue avec l'ambassadeur de Chine en France, qui est venu passer une dizaine de jours avec 7-8 conseillers et assistants en Nouvelle-Calédonie, en la sillonnant du nord au sud. Donc bien sûr, c'est une marque d'intérêt majeur qui a été portée par notre pays à la veille, le cas échéant, d'une sortie de la République, puisque le référendum est pour ou contre l'indépendance. Quand on voit ce qui se passe au Vanuatu, dans les îles Salomon, quand on voit la place que les Chinois ont prise dans ces îles, la recolonisation politique, économique, financière de ces îles dans lesquelles il y a principalement du sable et des cocotiers, on imagine qu'un gros caillou de nickel comme la Calédonie, qui est les deuxièmes réserves du monde, pourrait être bien sûr quelque chose de très intéressant pour eux. La Nouvelle-Calédonie bénéficie d'une attention particulière, fortiori, puisqu'elle peut demain sortir de la République.
Philippe Gomez, député de la Nouvelle-Calédonie avec Océane Théard.
L'ouverture aujourd'hui d'une conférence très attendue, celle sur les salaires dans la fonction publique.
5,5 millions d'agents sont concernés, mais les discussions s'annoncent longues et difficiles. Les syndicats réclament une augmentation pour tous les fonctionnaires. L'État, lui, préfère des hausses catégorielle. Ce matin, dans les Échos, la ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, l'affirme, la récente hausse du SMIC sera répercutée sur les plus bas salaires, soit 37 euros de plus par mois dès le 1er octobre pour les agents de catégorie C.
Comment lutter contre les déserts médicaux en France? Vaste question. Eh bien, la solution passera peut-être par la télémédecine.
À Saint-Quentin, dans l'Aisne, il faut parfois attendre plus de 6 mois pour décrocher une consultation chez un ophtalmologue. C'est dans cette ville que l'on expérimente depuis 3 mois des consultations d'ophtalmologie à distance, ce que l'on appelle la téléconsultation. Caroline Baudry a testé pour vous. Reportage.
La dernière fois que vous avez consulté l'ophtalmo, c'est 2013.
J'avais des lunettes, mais je ne peux plus les porter.
Cette minuscule salle de téléconsultation est épurée. Une chaise, une plante et un écran. Le visage de Rita Guedira, ophtalmologiste, y apparaît. Elle est à 100 km de là, à Lille. C'est elle qui analyse les examens réalisés à l'instant sur le patient lors d'une préconsultation.
La réfraction, la tension, les photographies du fond d'œil, un petit bilan oculomoteur. Et tout ça m'est transmis, évidemment de manière sécurisée.
Rémi, 33 ans, ne s'attendait pas à obtenir si vite son ordonnance de lunettes. Cet ouvrier agricole n'a appelé le centre qu'à 14h.
15h40, j'avais le rendez-vous. C'était très très rapide. J'ai dit, d'habitude, il faut attendre 6 mois.
J'aurais peut-être lâché l'affaire.
Lâcher l'affaire comme de nombreux patients, faute de médecins dans la région, regrette François Pelaine. Il est ophtalmologiste et cofondateur du groupe Point Vision à l'origine de ces téléconsultations.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vu 500 personnes, que sur ces 500 personnes, il y en a une centaine qui avaient des cataractes et qui n'avaient pas été prises en charge. Si on peut aider à la reprise du suivi ophtalmologique des patients, on rend un service à la population.
Son objectif, généraliser l'ophtalmo à distance partout en France à la fin de cette expérimentation d'un an qui, dit-il, est prometteuse.
Caroline Baudry. Un mot de football, Julien. La commission de discipline de la Ligue inflige 2 matchs à huis clos à l'encontre du RC Lens après les débordements du week-end dernier face à Lille. C'était le derby. Mesure prise à titre conservatoire en attendant le 6 octobre et la décision sur le fond. Les Lillois, eux, seront privés de supporters pour leur match à l'extérieur jusqu'à cette date.
Et c'était le journal de Christophe Lamar. Merci Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. Direction Auteuil pour ce quintet. Une course de haie formule handicap qui réunira un lot homogène de 15 juments âgés de 4 et 5 ans sur la distance de 3600 mètres avec deux bonnes favorites, les numéros 4 Colina As et 8 Nelly As, issus du même élevage et qui alternent avec réussite les haies et le stiple. On leur opposera les numéros 3 Akela du Seuil, que je sais estimé par son entraîneur Michael Serror, 11 Folie Passagère, avantagée par l'assouplissement du terrain, et 12 Gémoyo, qui dépend de l'entraînement de Sonia Delaroche, dont tous les pensionnaires sont actuellement en très grande forme. Enfin, les numéros 1, Gardez la Monnaie, 5, Geelong Sport et 2, Linares sont autant de possibilités pour compléter la combinaison gagnante de ce quintet. Mon pronostic, 4, 8, 3, 11, 12, As, 5 et 2.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Il est 5h39, bon réveil, on va parler des vacances annulées à cause de la crise du Covid. C'est peut-être votre cas, c'était peut-être votre cas. Les avoirs émis par les agences de voyage au printemps et à l'été 2020 commencent à être remboursés. Tous les voyagistes vont-ils jouer le jeu? On voit ça dans une minute sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h41, bon début de matinée sur Europe 1. Vous faites peut-être partie de ces nombreux Français qui ont vu leurs vacances tomber à l'eau à partir du printemps 2020 et l'arrivée de la pandémie. Des offres combinées, hôtels plus avions, qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement quasi immédiat, car pour éviter les faillites en cascade, les voyagistes en France ont été autorisés à proposer à leurs clients un avoir valable 18 mois. Cela concerne les séjours annulés entre le 1er mars et le 15 septembre 2020. Des avoirs qui arrivent donc ces jours-ci à échéance, ils n'ont pas été utilisés. On en parle avec Emmanuel Liop, avocate spécialisée en droit du tourisme chez Equinox Avocats.
Bonjour Emmanuel Liop.
Bonjour.
Alors beaucoup sont les voyageurs aujourd'hui qui n'ont pas encore utilisé cet avoir.
C'est vrai, alors il est difficile de les décompter. Je peux vous dire cependant que selon les informations de la profession, une enveloppe globale d'environ 500 millions d'euros d'avoirs non consommés est aujourd'hui à prendre en considération.
Alors à l'issue de ce délai des 18 mois, les clients doivent être remboursés l'intégralité de la somme qu'ils ont dépensé tout l'avoir, c'est bien ça?
Oui, alors une précision, le délai de 18 mois court à partir du moment où l'agence de voyage a formulé une nouvelle proposition, parce qu'elle avait l'obligation de le faire, à ses clients voyageurs. On fait courir ensuite les 18 mois. L'avoir, c'est juste la représentation de l'argent qui est en compte chez l'agence de voyage. Et le client, il a effectivement 18 mois pour dépenser intégralement son avoir sur un nouveau voyage, en dépenser une seule partie. Et à l'issue de ces 18 mois, soit il lui reste l'intégralité à récupérer, soit il lui reste une partie seulement à récupérer. Mais effectivement, il doit récupérer ce que l'agence a en compte.
Et si on souhaite se faire rembourser avant l'échéance des 18 mois, c'est possible?
C'est possible, disons, de deux manières. Soit l'agence est d'accord, parce qu'elle a l'argent, tout va bien, elle a bien géré sa trésorerie, ses PGE et autres aides. Donc tout va bien, elle est d'accord, et c'était un arrangement entre le voyageur et l'agence. La seconde manière d'obtenir un remboursement anticipé, c'est de présenter un dossier un peu particulier d'un voyageur qui serait dans le besoin, qui a des difficultés suite aux conséquences de la pandémie et qui ferait à ce moment-là appel à une commission qui a été créée à l'initiative notamment du syndicat des entreprises du voyage et de la médiation tourisme et voyage pour étudier les cas un peu particuliers et conseiller à l'agence vraiment de faire un effort et de rembourser avant l'échéance les gens en difficulté, les gens qui n'ont plus de travail, qui ne peuvent plus voyager, qui sont malades. On a eu des cas comme ça.
Et à l'inverse, les agences en difficulté peuvent proposer de prolonger cet avoir ?
Ça, en revanche, il n'existe pas de commission à ce sujet-là. On sera encore une fois sur le terrain d'un accord éventuel entre l'agence et son client. Il y a aujourd'hui des clients qui ont dit à leur agence « Écoutez, moi, pour l'instant, j'ai pas de projet de voyage, vous avez l'argent, je sais qu'il est entre de bonnes mains, conservez-le et on verra plus tard. » Mais encore une fois, c'est un accord qui doit intervenir. Là, il n'y a pas de commission de ce type.
Bien sûr. Dans quelle situation financière se trouvent-elles, ces agences ? Beaucoup d'argent sont perdus pour elles ?
Alors, comme je vous disais, on estime à 500 millions les avoirs qui restent. On partait de 1,4 milliard, 1,5 milliard. Maintenant, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelles sont les difficultés financières. D'abord parce que le secteur est remarquablement aidé par les pouvoirs publics et que finalement, je ne dis pas que ça masque, mais en tout cas, ça retarde peut-être des difficultés. Donc aujourd'hui, où commence le remboursement des avoirs, parce que ça n'est pas tout au mois de septembre 2021, ça va s'étaler jusqu'au printemps 2022, il est trop tôt pour savoir si des agences auront des difficultés pour rembourser.
Imaginons, je suis passée par une agence de voyage pour organiser mes vacances, des vacances annulées. Au-delà de l'échéance des 18 mois, l'agence refuse de me rembourser ou elle a fait faillite. Quels sont les recours ?
Ah, alors, j'espère qu'aucune agence ne refusera d'embourser les avoirs, parce que ça, elle n'a légalement pas le droit de le refuser, comme elle n'a pas le droit d'imposer aux clients voyageurs de conserver les sommes versées. Ça, c'est le premier point. Donc, on n'a pas le droit de refuser. En revanche, de manière pratique, il peut exister des difficultés à rembourser. Et c'est là qu'on va voir celles qui vont bien et celles qui ne vont pas bien parmi les agences. Il faut savoir que les sommes versées par le client sont garanties par le garant financier de l'agence de voyage. À supposer, bien évidemment, que l'agence de voyage soit une agence régulière et immatriculée au registre national des agences de voyage. Elle a obligatoirement un garant financier qui va protéger ces sommes si l'agence est en difficulté financière pour rembourser.
Lorsqu'une compagnie ou un site de vente de voyage en ligne ne rembourse pas la totalité du prix du billet, du vol, je parle, et prélève des frais, est-ce que c'est normal, tant pis pour nous, ou là encore on peut déposer une réclamation et obtenir gain de cause si on n'a pas reçu le remboursement de notre billet total ?
Si on parle toujours de vol sec, il faut savoir une chose, c'est que l'entité qui doit rembourser le prix du vol, c'est la compagnie aérienne. Même si on a acheté ça auprès d'une agence, qu'il s'agisse d'une agence de voyage physique ou d'une agence en ligne, il faut bien comprendre que l'agence, elle n'est qu'un intermédiaire entre le passager et la compagnie, qu'elle n'a plus l'argent, le prix du billet, et qu'elle a rempli sa mission qui était d'émettre un billet de la compagnie pour ce passager. Donc, elle n'est pas, ça n'est pas cette agence physique ou en ligne qui est débitrice, si vous voulez, de cet argent. Ça, c'est, il faut être précis là-dessus. Pour le vol sec, le débiteur, le remboursement doit intervenir de la part de la compagnie aérienne. D'où la difficulté, je sais bien, des passagers. Mmh.
Merci beaucoup, Emmanuel Liop, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes avocate spécialisée en droit du tourisme chez Equinox Avocats. Merci.
Avec plaisir, au revoir.
Il est 5h47, bon réveil à vous, on est ensemble jusqu'à 6h30 sur Europe 1 et on retrouve à présent Nicolas Carreau pour son conseil lecture.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Ce matin, vous nous parlez du nouveau roman de l'auteur de 37.2 le matin, Philippe Djian, roman qui s'intitule « Double Nelson ».
Oui, entre le polar et l'histoire d'amour, le genre n'est jamais tout à fait défini chez Djian. Là, c'est l'histoire de Luc, un romancier en panne d'inspiration qui remet à plus tard l'écriture, faute de réussir à se concentrer. Il y a toujours un truc qui l'en empêche, trop de calme ou trop de problèmes ou trop de solitude ou au contraire la vie de couple. Et un jour, l'amour lui tombe littéralement dessus, c'est-à-dire qu'une femme, Edith, lui saute dessus à pieds joints et le plaque au sol.
Au moins, c'est direct, hein.
En fait, c'est une erreur surtout. Edith l'a pris pour un autre, elle fait partie des forces spéciales et elle a cru que c'était sa cible, et puis non. Mais ils sont quand même tombés amoureux l'un de l'autre immédiatement et ça crée un couple un peu atypique avec un personnage de femme badass et un homme un peu faiblard et paumé. C'est en lisant la presse que Philippe Djian a trouvé son idée.
C'est une lecture, je suis tombé sur un article dans je ne sais plus quel magazine où une femme avait été introduite dans ce fameux cercle très particulier des forces spéciales, et les types, qui étaient tous plutôt, plus ou moins des gars assez balèzes, disaient qu'évidemment, dans un bras de fer, on a des chances d'être supérieurs, mais au niveau du mental, elles les battaient tous. Et ils avaient la mâchoire qui se décrochait en disant « waouh ». Parce que quand il fallait faire des marches de 40 km sous la pluie, dans la boue et tout, les hommes, au bout de 30 km, en avaient marre. Et elle en avait plus que marre, elle était blessée, elle était malheureuse, mais elle a continué, elle est arrivée avant. Donc il y a une espèce de respect qui se met en place et qui est difficile à gagner, parce que, à mon avis, pour être femme qui dirige en même temps des commandos dans les forces spéciales, il faut vraiment qu'il y ait une espèce de respect qui se mette en place, et ce respect, il est là. Quel est celui qui, mentalement, résiste ?
Nicolas, vous nous avez parlé de l'histoire d'amour, mais qu'en est-il du polar ?
Il arrive, Edith et Luc se séparent, enfin c'est Luc qui quitte Edith avec un post-it sur le miroir de la salle de bain, autant vous dire qu'Edith n'apprécie pas franchement la méthode, mais c'est comme ça, chacun part de son côté et Luc essaye de reprendre son roman et de faire le deuil de sa relation avec Edith, mais un soir, elle débarque en combinaison de plongée, blessée gravement, et elle demande à Luc de la cacher. Ça l'ennuie, Luc, parce qu'il a un roman à terminer, il sent bien qu'il n'y a pas de mal, de danger et d'ennui à récolter, et surtout il veut à tout prix éviter de retomber amoureux d'elle, mais il le fait. Et Philippe Djian pose le fameux dilemme de que feriez-vous si un ami ou un proche vous demandait de l'aider à dissimuler un crime. Mais je vous dis rien de plus sur l'intrigue.
Non, ne te dire rien de plus. Double Nelson, le titre, qu'est-ce que ça veut dire, Nicolas ?
C'est une prise de catch qui consiste à immobiliser l'adversaire en bloquant ses épaules. C'est une soumission en fait, et chez Djian, ça devient une métaphore de l'amour.
La vision de l'amour qui, j'espère, ressort de ce livre, c'est que c'est comme un balai. Un balai un peu monstrueux, mais qui n'est pas méchant quand même, sauf évidemment, il y a toujours des extrêmes. Mais en théorie, j'ai l'impression que dans un couple, il y a toujours cette histoire de qui prend le pouvoir. Et ça, c'est naturel. C'est un truc que... Bah, je vais vous le dire, en fait, au départ, je me pensais que savoir qui employait le double Nelson sur l'autre. Et à la fin, je ne sais plus trop qui, en fait. Et c'est ça qui m'a amusé en même temps, parce qu'on a toujours l'impression de prendre le pouvoir. Et si l'autre est plus malin, bah... On voit que c'est passé dans d'autres mains, le pouvoir.
Et ça fonctionne à la perfection. C'est un grand Djian, c'est drôle. Il y a de l'action, du sentiment, du polar, avec le ton vif et juste de Philippe Djian.
Double Nelson, donc le nouveau roman de Philippe Djian, c'est chez Flammarion. Merci Nicolas Caro, on vous retrouve dimanche à partir de 14h sur Europe 1 avec votre émission La Voix est Libre.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h50 sur Europe 1, le journal permanent, l'essentiel de l'actualité avec Alban Le Prince.
Des réflexes d'une autre époque a dénoncé cette nuit à l'ONU Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, toujours aussi en colère dans l'affaire des sous-marins. À Paris, Emmanuel Macron présidera un conseil de défense sur le sujet aujourd'hui. C'est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer qui touche environ 1 million de personnes en France, 225 000 nouveaux diagnostics annuels, mais toujours aucun traitement. 20 ans après l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, faisant 31 morts, 2500 blessés et des milliers de sinistrés à 10h17, très précisément. Une commémoration est prévue à la même heure ce matin. Aux législatives canadiennes, le prochain gouvernement sera formé par le Parti libéral de Justin Trudeau. Le Premier ministre obtient un troisième mandat. Les résultats encore préliminaires ne permettent pas de déterminer s'il sera à la tête d'un gouvernement majoritaire ou minoritaire.
Europe Matin.
Voilà pour l'actualité nationale et internationale. On va maintenant au plus près de chez vous, avec vos quotidiens régionaux. C'est en France, un article raconté par celles et ceux qui l'ont écrit.
Bonjour Jean-Marc Chevauché.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du Courrier Picard, où l'on peut lire ce matin un article sur une députée de l'Aisne qui a passé au crible les logements de fonction de nos ministres.
Oui, il s'agit d'une députée de l'An, Aude Bonneau. C'est une information qui est sortie... D'abord dans le journal L'Union, qui est un journal de notre groupe et que nous avons reprise dans le Courrier Picard, puisque la députée est originaire de l'Aisne en Picardie. Sa note est très intéressante, puisqu'elle nous pointe les habitations des ministres et nous explique comment il est possible que Barbara Pompili ait un logement de 167 mètres carrés à Paris, à la ministre, alors que d'autres n'ont qu'un appartement de 58 mètres carrés, voilà. Elle nous dresse une liste qui est intéressante, il s'agit d'argent public, donc ça mérite d'être porté à la connaissance de tout le monde.
Tous les ministres, en revanche, ne bénéficient pas d'un logement de fonction, c'est ce que révèle aussi cette note.
Oui, et alors là où on a du mal à comprendre, quels sont les critères d'attribution en fait ? On a l'impression qu'il doit y avoir quelque chose qui relève du fait du prince, ou en tout cas c'est l'impression que ça produit, à défaut d'explications, puisqu'on a du mal à avoir des explications, c'est même assez difficile de les obtenir. Donc on en est réduit à en conjoncture et à se demander pourquoi celui-ci et celui-là, celui-ci qui semble être ministre d'un secrétariat d'État moins important qu'un ministère très en vue, comment se fait-il qu'il a un appartement plus grand ? ben, on est un peu perdu.
En tout cas, il n'y a pas de hiérarchie, hein. C'est ce qu'on comprend, vous venez de le dire, parce que du côté des mieux lotis, le grand gagnant, c'est Olivier Dussopt, le ministre délégué chargé des comptes publics. Il bénéficie de 210 mètres carrés et c'est plus que Jean Castex, avec ses maigres, entre guillemets, 186 mètres carrés à Matignon.
Ah oui, c'est intéressant, hein. Olivier Dussopt, il a beaucoup plus que son premier ministre. Olivier Dussopt, tout le monde s'en souvient, hein, c'est cet ancien député socialiste qui avait réussi la performance de voter contre le budget quand il était député et d'aller le défendre le lendemain au Sénat puisqu'il était devenu ministre dans la nuit. Donc c'est quelqu'un qui est aujourd'hui à l'appartement le plus grand du gouvernement. Il est même mieux logé que Gérald Darmanin, que Jean Castex lui-même, vous l'avez dit. Enfin, que tous les ministres.
Comment est-ce que cette députée a-t-elle obtenu ces informations qui sont plutôt confidentielles ?
Alors, elle s'est penchée sur ses logements. Elle a utilisé la procédure habituelle hein, pour un élu de la République. Alors, on doit le dire quand même, on ne l'a pas dit, Julien, encore. C'est une députée de La République En Marche. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'opposition au gouvernement. C'est quelqu'un qui
oui, on ne peut pas dire que sa démarche soit un règlement de compte politique.
Ben voilà, on ne peut pas parler de ça, hein, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui appartient à la majorité parlementaire. Donc, elle a tout simplement écrit au Premier ministre. Ça fait quand même 2 ans qu'elle a demandé. Hein. Faut accuser personne, en fait. Je pense que c'est le fonctionnement qui est comme ça. Tous les gouvernements subissent ça. Toute l'administration subit ça. C'est compliqué d'avoir ces informations-là parce que, évidemment, à chaque fois, on se demande si on peut les donner. Il s'agit d'argent public, encore une fois, et on a le droit de savoir.
Merci beaucoup, Jean-Marc Chevauché, de nous avoir fait découvrir cet article à lire donc aujourd'hui dans le Courrier Picard. Très bonne journée et à bientôt, Jean-Marc.
Europe Matin. Blin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil sur Europe 1, il est 5h57, c'est l'heure Julien de faire le point sur le programme de la prochaine demi-heure.
Nous sommes le mardi 21 septembre et c'est la journée mondiale de lutte contre Alzheimer. C'est la démence la plus connue et la plus répandue. Elle touche environ 1 million de Français, plus de 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Voilà pour les chiffres, mais qu'en est-il des traitements? Où en est la recherche? Eh bien, on va en parler dans une dizaine de minutes avec le professeur Philippe Amouyel, le directeur de la Fondation Alzheimer. Et puis juste après, on se quittera Blin en musique avec votre partenaire.
9 albums studio, 4 Grammy Awards remportés aux États-Unis, plus de 40 millions d'albums vendus. Steely Dan, ce duo américain devenu une référence en matière de musique soft rock dans les années 70 et pourtant assez méconnu en France. Petit rattrapage dans 20 minutes.
Mais avant, on va faire un petit rattrapage sur la météo du jour, Anissa Haddadi, ou plutôt une petite projection, puisqu'il va y avoir un peu plus de soleil cet après-midi.
Et oui, ça fait du bien, ce sont de bonnes nouvelles. C'est vrai qu'on va oublier la journée grise hein, qu'on a eue hier. Donc sur la moitié nord, le ciel va se dégager. D'ailleurs, hein, si vous nous écoutez ce matin en Bretagne, sur les Pays de la Loire, la Normandie, le Cotentin, les Hauts-de-France, la région parisienne, la Franche-Comté, l'Alsace, et bien dans toutes ces régions, vous allez avoir droit à une très belle après-midi. Ailleurs, c'est encore un peu couvert, hein, avec sur la moitié sud, pas mal de petites averses sur l'Occitanie, les Pyrénées, les Alpes, le Massif central, des petites averses résiduelles, et puis toujours du vent au bord de la Méditerranée. Alors au bord de la Méditerranée, vous allez commencer la journée sous le soleil et puis au fil des heures, ça va se couvrir. Alors actuellement, on a 10 à 17 degrés, 10 à Charleville-Mézières, 11 au Puy-en-Velay, 13 à Paris et Grenoble, 15 à Lille-Dieu et 16 du côté de Calvi. Cet après-midi, c'est homogène avec 18 à 26 degrés, 18 à Boulogne-sur-Mer, 19 à Clermont-Ferrand, 20 degrés à Paris, ça baisse un peu, va faire frisquer, hein, 25 à Nice et 26 pour Bastia, mais ce sont des températures de saison.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à vous, c'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin.
Blin Roche et Julien Pierce.
C'est une maladie qui dévore la mémoire d'un million de Français. Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Aucun traitement, mais des thérapies pour retrouver ses souvenirs. Reportage dans un EHPAD francilien où les résidents retrouvent les voitures de leur jeunesse. Comment augmenter le pouvoir d'achat des fonctionnaires? La conférence salariale de la fonction publique s'ouvre aujourd'hui. Et face au gouvernement, ça va forcément mal se passer, annonce un syndicat. Et puis il y a 20 ans, l'explosion de l'usine chimique AZF tuait 31 personnes. Un drame qui a au moins permis d'améliorer notre approche du risque industriel. Le journal de 6 heures vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Cette maladie touche peut-être l'un de vos parents, grands-parents ou amis. C'est la journée mondiale d'Alzheimer, une altération de la mémoire qui handicape près d'un million de Français. Et s'il n'existe pas de traitement, certaines thérapies permettent au moins de raviver les souvenirs des malades. Élise Dangean et son micro sont allés dans une unité Alzheimer d'un EHPAD Corian dans les Yvelines.
Alors c'est une Ford Mustang de 1965. Alors
Benjamin c'est... Joigny offre un voyage dans le temps à ses résidents. Collectionneur de vieilles voitures, le directeur de l'établissement se transforme pour l'occasion en chauffeur sur le siège passager. Denise, 88 ans, qui est à un stade avancé de la maladie, mais qui n'est pas dépaysée par le véhicule.
Je suis gâtée.
Au bout de quelques mètres, passé le choc d'un monde qui ne ressemble plus tout à fait à celui de sa jeunesse.
Qu'est-ce qu'il y a comme bagnole ?
La mémoire lui revient un peu.
Je suis déjà passée une fois par là, je ne sais plus pourquoi.
Une victoire pour l'équipe soignante à bord, car il ne s'agit pas d'une simple balade dans cette voiture qui sert de capsule temporelle. On évalue l'état du patient avec quelques questions.
Son métier, c'était quoi, votre papa ? Sa profession ?
Ébéniste.
Les souvenirs qui restent préservés le plus longtemps, c'est les souvenirs qu'on a emmagasinés entre l'âge de 10 ans et l'âge de 35 ans. Donc là, pour cette population ici, ça nous ramène dans les années 60-70.
L'établissement prévoit même d'aller plus loin et de se mettre complètement aux couleurs de l'époque, repas, vaisselle, déco et même musique, le tout pour raviver la mémoire des résidents.
Qui c'est ?
Edith Piaf.
Voilà le reportage très touchant d'Élise Dangean pour Europe 1.
Et où en est la recherche sur cette maladie ? Peut-on espérer un traitement dans les années qui viennent ? Autant de questions que l'on posera dans quelques minutes à notre invité, le professeur Philippe Amouyel, directeur de la Fondation Alzheimer. Faut-il augmenter le salaire des fonctionnaires ? La question sera sur la table de la conférence salariale de la fonction publique. Elle démarre aujourd'hui.
Le début de plusieurs mois de négociations programmées jusqu'en février face aux syndicats. Amélie de Montchalin, la ministre de la fonction publique. Et pour ce premier jour, déjà la rencontre s'annonce tendue. Carole Ferry.
Ça va forcément mal se passer, me confiait un responsable syndical sur le point d'indice. La bataille est quasiment perdue d'avance. Le point d'indice, c'est ce qui permet d'augmenter les salaires de tous les fonctionnaires, du plus haut au plus bas de l'échelle. Mais voilà, un point d'indice en plus, c'est 14 euros net par mois en moyenne sur la fiche de paye. 2,5 milliards d'euros pour le budget de l'État. Donc une fois de plus, le gouvernement compte bien s'en passer et actionner des leviers moins coûteux. En juillet dernier, par exemple, il avait annoncé une hausse ciblée des salaires sur les fonctionnaires de la catégorie C, les moins bien payés. Sauf que depuis, l'inflation et la hausse du SMIC sont passées par là dans le privé et les revalorisations annoncées pour janvier prochain ne sont plus à la hauteur, selon Christian Grolier, secrétaire général de la section FO des fonctionnaires.
La future grille de salaire allait nous rendre tranquilles pendant plusieurs années. Et là, 1er octobre, augmentation du SMIC de 2,2% et des centaines d'agents se retrouvent à nouveau payés en dessous du SMIC. On ne peut pas accepter que les agents soient payés en dessous du SMIC. Et si on veut donner de l'attractivité à l'emploi public, c'est le minimum.
Selon les syndicats, donc seul un geste dès l'ouverture de la conférence permettra d'apaiser les débats pour la suite.
Les explications de Carole Ferré du service économie d'Europe 1 et ce geste justement, Amélie de Montchalin l'annonce ce matin dans le journal Les Échos. Le gouvernement a décidé d'augmenter dès le 1er octobre les agents les moins bien payés via une revalorisation de la grille salariale. Plus aucun agent ne sera payé en dessous du SMIC, promet la ministre.
C'était il y a tout juste 20 ans, le 21 septembre 2001, l'explosion de l'usine AZF près de Toulouse qui avait tué 31 personnes et en blessé des milliers d'autres.
Un accident lié à l'époque à un mélange de produits chimiques. Aujourd'hui, il existe 1300 sites industriels à risque, appelés sites Seveso. Maud Descamps, concrètement, est-ce qu'un nouvel AZF est encore possible ?
Alors les experts sont très clairs, hein, le risque zéro n'existe pas. Mais les choses ont changé. Les industriels ont par exemple réduit la quantité de matière stockée pour limiter les risques d'explosion, d'incendie ou encore de pollution. Cela ne se faisait pas il y a 20 ans. Sans ces mesures, par exemple, l'incendie de Lubrizol à Rouen aurait été bien plus grave. Et puis, comme l'explique Christophe Bolvin de l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques, AZF a complètement changé notre approche du risque industriel.
Avant la catastrophe d'AZF, on avait une approche worst case, le scénario le pire. Depuis la catastrophe d'AZF, la méthodologie a vraiment évolué, prenant en compte tout type de scénario, du plus improbable comme du plus probable.
Des réponses plus adaptées donc, mais aussi une meilleure information de la population, notamment avec l'envoi de SMS en cas d'accident. Néanmoins, pour Alban Bruno de l'Association des maires pour la maîtrise des risques, tous les riverains à proximité d'un site Seveso ne sont pas protégés.
La loi de 2003 prévoyait le renforcement de leur habitat. Il y a 16 000 logements qui sont concernés en France. Seuls 1 500 logements ont bénéficié de travaux.
L'association réclame une plus grande inclusion des riverains encore mal informés.
L'éclairage de Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Il s'agit de l'un des plus grands groupes automobiles de Chine, le géant Dongfeng. Il se lance à la conquête du marché européen.
Et le constructeur veut même faire de la France son principal point d'ancrage. Il commercialise déjà plusieurs modèles 100% électriques. Présentation de la marque avec Aurélien Fleureau.
Rendez-vous est donné à la Cité de l'Espace à Toulouse. Trois modèles sont présentés, prêts à décoller sur le marché français. Deux SUV et un utilitaire. La marque chinoise s'est alliée à un spécialiste de la distribution automobile basé dans le Tarn. Didier Sirgue est le président de SN Diffusion.
On a invité un grand nombre de distributeurs qui maîtrisent leur zone. 44% du marché de la voiture électrique est chinois. Cette marque, elle n'est pas connue chez nous, mais elle est connue chez eux. Elle est fiable. Donc on est très fiers de la présenter à tous ces acteurs de la mobilité.
C'est donc une opération séduction auprès des professionnels pour ensuite réussir à convaincre les clients. Être connu, crédible, c'est tout l'enjeu pour Johan Bastos, porte-parole de la marque dont l'ADN vient aussi de la Silicon Valley grâce à l'un des fondateurs de Tesla.
Nous avons ces deux meilleures parties de la planète qui s'associent, notre recherche et développement qui est basée aux États-Unis et puis notre production avec nos méga factories qui sont elles basées en Chine. Chine qui a le savoir-faire qui amène cette qualité à un prix clairement établi pour pouvoir répondre aux attentes du plus grand nombre.
27 000 euros bonus déduit pour un SUV plutôt premium, le S3, l'un des moins chers du marché. La bataille du 100% électrique venu de Chine ne fait que commencer. MG et Heiwaze sont déjà en France. XPeng, NIO, Way ou Aura vont arriver dans les mois qui viennent.
Une bataille racontée par Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Et c'était le journal de Roman Hockey. Merci Roman.
Il est 6h06, on passe au sport. Le journal des sports de Martin Lange. Et on commence, Martin, avec les premières sanctions suite aux incidents qui ont émaillé le match Lens-Lille ce week-end.
Oui, la commission de discipline de la Ligue a décidé de frapper fort. Hein. Un mois après l'interruption du match Nice-Marseille, c'est le derby du Nord entre Lens et Lille qui a été le théâtre d'échauffourée samedi. Des affrontements qui ont fait 6 blessés légers. Et face à la multiplication des incidents, la commission réunie hier en urgence à Séville, 2 matchs à huis clos pour Lens et la fermeture de la tribune visiteur des supporters lillois pour leur prochain déplacement à Strasbourg. Des sanctions à titre conservatoire. Pour les sanctions définitives, il faudra attendre le 6 octobre prochain. Mais Pierre Barthélémy, avocat de l'Association nationale des supporters, regrette déjà qu'on ne s'attaque pas au fond du problème, les projectiles.
Pour ce qui est sanctionné, les fumigènes ou les envahissements de terrain consécutifs, on réagit fortement, mais qu'est-ce qu'on fait pour empêcher les jets de projectiles? La sécurité n'était pas idéale au match samedi soir entre Lens et Lille, où déjà il y a pu y avoir ces jets de projectiles, il n'y avait pas de filet, il n'y avait pas de cordon de stadier ou de policier. Ces projectiles ont pu être échangés pendant de longues minutes sans qu'il n'y ait aucune intervention. Donc je pense qu'il y a aussi, à la fois dans la prévention et dans la préparation des rencontres, des efforts à consentir pour éviter ces jets de projectiles qui sont souvent déclencheurs ensuite d'incidents plus graves.
Pierre Barthélémy, joint pour Europe 1 par Cyril de la Morinerie.
Sur le terrain cette fois, il y a aussi du foot ce soir.
Oui, l'équipe de France féminine se déplace en Slovénie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2023. Coup d'envoi à 21h. Il y a aussi de la Ligue 2 ce soir avec notamment le match de tous les contrastes. Dunkerque en crise et avant-dernier accueille le leader toulousain. Le multiplex de Ligue 2, c'est à 20h.
Et deux infos en bref pour finir, Martin.
Federer qui promet qu'il va revenir à 40 ans et malgré une troisième opération du genou, le Suisse a assuré hier devant ses sponsors qu'il sera sur les courts en 2022. Et puis du hockey sur glace, hein, reprise aujourd'hui de la Ligue Magnus. Rouen et Grenoble font figure de favoris.
C'était le journal des sports avec Martin Lange. Merci.
6h09 sur Europe 1. Vous restez avec nous. Dans un instant, nous serons en ligne avec le professeur Philippe Amouyel, directeur de la Fondation Alzheimer. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h11, nous sommes le 21 septembre et c'est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Votre invité Julien est Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer.
Bonjour professeur.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Il y a environ 1 million de personnes en France qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et ce nombre devrait malheureusement mécaniquement augmenter avec le vieillissement de la population. D'où l'importance de trouver des parades et peut-être même un jour un traitement capable de guérir Alzheimer. Justement, où est-ce qu'en est la recherche? Est-ce que ce traitement tant attendu est pour bientôt?
Alors, fixer une date est toujours très difficile en matière de nouveaux traitements. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une recherche active en matière de médicaments qui peuvent traiter la maladie d'Alzheimer à différents stades et à différents niveaux.
Il y a un traitement qui, je crois, suscite de l'espoir, c'est l'aducanumab qui a été autorisé cet été par l'Agence américaine du médicament.
Alors, c'est donc un médicament qui cherche à stopper l'évolution de la maladie en détruisant et en éliminant une protéine qui s'accumule anormalement dans le cerveau des patients atteints de maladie d'Alzheimer qu'on appelle la protéine amyloïde. Alors, ce médicament a en effet été autorisé au mois de juin aux États-Unis par l'Agence américaine du médicament. En France, il n'est pas autorisé encore. Il est actuellement en examen à l'Agence européenne du médicament. Il pose quand même un certain nombre de questions dans la mesure où c'est un traitement qui est relativement lourd, qui utilise ce qu'on appelle une biothérapie par anticorps, relativement coûteux et pour l'instant nécessite encore quelques études pour garantir l'impact clinique et le bénéfice clinique qu'auront les patients.
Si on revient en France, les seuls médicaments qui existent pour Alzheimer sont ceux qui permettent d'atténuer les symptômes de la maladie, mais ils sont plus remboursés par la Sécu depuis 3 ans. Est-ce que vous le regrettez ?
Alors, c'est toujours la même question, c'est-à-dire est-ce que le fait d'avoir déremboursé ces médicaments a changé quelque chose à leur utilisation ? Oui, certainement, chez les personnes qui les avaient en cours, qui les utilisaient, le remboursement progressif aurait été peut-être plus utile. Il conserve quand même une utilité chez certains patients, en particulier des patients qui ont des troubles relativement modestes et légers en début de maladie, mais ne les soulage et pas dans tous les cas que pendant quelques mois, voire quelques années.
Alors, si on ne sait pas encore guérir Alzheimer, beaucoup de progrès, en revanche, ont été faits du côté de la prévention et de la connaissance de la maladie.
Oui, alors on s'est rendu compte maintenant qu'en fait, lorsque vous développez les premiers symptômes, la maladie existe et fait son travail pendant déjà 10 ou 20 ans. Donc, ça laisse une période pendant laquelle on pourrait imaginer pouvoir mieux résister à cette maladie et repousser l'âge de début des symptômes. Et ça a été récemment démontré par différentes études épidémiologiques qui montrent qu'en fait, dans les populations qui développent aujourd'hui des maladies d'Alzheimer, on a l'impression qu'elles les développent beaucoup plus tard. L'intérêt de développer cette maladie plus tard, c'est qu'à ces âges-là, malheureusement, vous pouvez mourir d'autre chose entre deux, si vous la développez à 85 ans au lieu de 75 ans, sans jamais avoir eu les symptômes. Donc comme si vous n'aviez pas eu la maladie, donc une réelle prévention de cette maladie.
Donc il est réellement possible de retarder de plusieurs années l'apparition des premiers symptômes ?
Comment ? Oui, tout à fait. Il y a 4 grands axes. Il y a l'axe stimulation du cerveau, on va dire, qui correspond aux études, à la longueur d'études que vous avez faites, mais pas seulement. Vous pouvez stimuler votre cerveau toute votre vie, le faire sortir de sa zone de confort. Et ça peut être des activités cérébrales. La lecture est un excellent stimulant. Mais ça peut être d'autres activités comme les voyages, le bricolage et même le tricot, qui est une activité très stimulante pour le cerveau. Après, il faut... Pardon.
Non, oui. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure notre reportage sur cet EHPAD en région parisienne qui propose à ses résidents atteints d'Alzheimer de se balader dans de vieilles voitures de collection pour raviver leur mémoire. C'est ce genre d'initiative qui permettent de ralentir la progression de la maladie ou en tout cas d'en limiter les effets ?
C'est un de ces types d'initiatives qui est important. Il intervient à plusieurs niveaux. On ravive la mémoire en les mettant dans ces voitures anciennes, mais aussi on crée surtout une relation. Or ça, c'est un élément essentiel de la prévention, c'est de conserver un lien social dense et intense pour assurer et garantir justement la persistance le plus longtemps possible de nos fonctions intellectuelles. Il faut savoir que les optimistes font moins d'Alzheimer que les pessimistes, que les gens en couple font moins d'Alzheimer que les pessimistes et que ceux qui ont des réseaux sociaux importants, au sens physique du terme, eux également sont relativement protégés.
Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, s'ils appellent régulièrement leurs parents ou leurs grands-parents, s'ils vont les voir fréquemment, ils participent d'une certaine manière à repousser l'éventuelle arrivée d'Alzheimer ?
Oui, tout à fait, c'est très important. Et le Covid nous a montré que ce confinement avait un effet extrêmement délétère sur les patients. Donc, il est réellement important de renouer rapidement ce lien.
L'alimentation, c'est également un axe où il faut faire extrêmement attention.
Alors extrêmement attention, oui, mais je pense que ce qui est important, c'est de savoir que le cerveau ne vit bien que si votre corps vit bien. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un type en particulier d'alimentation qui semblait ralentir l'apparition des symptômes, c'est le régime méditerranéen, ce régime dans lequel on associe des fruits, des légumes, du poisson, diminue ses consommations de viande rouge avec des laits de brebis. Donc voilà, c'est ce type d'alimentation qu'on voit de plus en plus dans notre culture aujourd'hui, qui permet de repousser l'âge de début des symptômes. En revanche, tous les autres compléments et éléments, si vous n'en avez pas besoin réellement parce que vous êtes en carence, n'ont jamais prouvé leur effet.
Vous êtes optimiste, professeur, pour les années qui viennent, les décennies qui viennent, au sujet de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, optimiste parce que juste si on met en place ces mesures de prévention au niveau de la population, si on repoussait par exemple de 5 ans l'âge de début des premiers symptômes dans toute la population, ça permettrait sur les 10 prochaines années de réduire de plus d'un tiers le nombre des patients qui devraient faire une maladie d'Alzheimer. Donc c'est déjà un bénéfice en soi. Et puis la recherche est en train d'avancer. On a eu ce premier médicament mis sur le marché. Il y a une centaine de molécules en cours de recherche actuellement et que d'ici quelques années, on finira par trouver une solution.
Merci infiniment, professeur Philippe Amouyel, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Fondation Alzheimer, notamment, et j'ajoute que vous serez à partir de 11h sur Europe 1, l'invité de Bienfait pour vous, avec Mélanie Gomez et Julia Vignali. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Il est 6h18, vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, le groupe américain Steely Dan dans la partition.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 6h20 sur Europe 1 et c'est les principaux titres de l'actualité de ce mardi avec Alban Le Prince.
La recherche avance. C'est aujourd'hui la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Elle touche environ 1 million de personnes en France. Dans l'affaire des sous-marins, conseil de défense prévu aujourd'hui à l'Elysée. À l'ONU, cette nuit, Jean-Yves Le Drian s'est montré toujours aussi en colère. C'est le réflexe d'une période révolue, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. La plateforme Deliveroo et trois de ses ex-dirigeants jugé en mars 2022 au tribunal correctionnel de Paris. Ils sont accusés de travail dissimulé pour avoir employé comme indépendants des livreurs qui auraient dû être salariés.
On termine avec votre partition, Omblin, et un duo américain ce matin qui a fait les grandes heures du genre jazz-rock dans les années 70. Vous nous parlez de Steely Dan.
Et sans doute, Julien, pour certains d'entre vous, il serait plus juste de dire « je vous présente Steely Dan ». C'est l'un des grands mystères de l'industrie musicale. Certains artistes ou formations traversent sans peine l'Atlantique, d'autres non, hélas, ou de manière plus confidentielle. Et pourtant, pour la qualité de leur production, les deux cerveaux de Steely Dan, le bassiste et guitariste Walter Baker et le pianiste Donald Fagen ont été élevés au rang de maître par des disciples comme les Daft Punk, Pharrell Williams ou Mark Ronson.
Les deux virtuoses new-yorkais se rencontrent à l'université à la fin des années 60.
Ils intègrent différentes formations de jazz, font leurs armes en écrivant pour d'autres, avant de prendre la direction de la Californie pour former leur propre groupe baptisé Steely Dan. Et vous allez comprendre tout de suite l'état d'esprit des musiciens malicieux. Le nom Steely Dan est une référence directe à l'univers psychédélique du roman Festin nu de William Burroughs, une référence, disons, caoutchoutée à un objet sexuel.
Ah d'accord, ok. Bon, Walter Baker et Donald Fagen ne manque pas d'humour, effectivement.
De l'humour noir, exprimé dans des textes ironiques, cyniques, mais surtout poétiques. Cette dualité leur plaît beaucoup. Ils jouent de cette opposition du fond et de la forme. Ces textes, sous forme de critiques sociales amères, chargées de second degré, sont portés par une musique pop ultra soignée, des harmonies vocales joyeuses et un groove teinté de funk. Cette chanson Kid Charlemagne raconte l'ascension puis la chute d'un dealer de drogue. Le rappeur Kanye West va sampler la mélodie pour créer son titre Champion.
Dès le premier album en 1972, Steely Dan va produire des disques à un rythme d'enfer.
Un parent obsessionnel du son et des arrangements, Donald Fagen et Walter Baker exigent la perfection. Ils obligent leurs musiciens à enregistrer des dizaines de prises par morceau, un coût de production inenvisageable aujourd'hui. Et pour favoriser ce travail en studio, ils vont finir par renoncer au concert.
Ce travail acharné va durer 8 ans et en 1977, Steely Dan sort l'album considéré comme leur chef-d'œuvre.
Disque baptisé Asia, honoré aux Grammy Awards et qui sonne comme un chant du cygne. Ils ne tarderont pas ensuite à faire bande à part avant de se reformer 30 ans plus tard. Dylan avec Peg en 1977. Un coffret live sortira vendredi, le premier depuis 25 ans, avec uniquement Donald Fagen, puisque ces enregistrements concerts ont eu lieu après le décès de Walter Baker en 2017.
Merci beaucoup, Omblin. Vous restez avec nous. Votre matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko qui vient de faire son entrée dans le studio. A tout de suite.